Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, que les nations n'aient pas lieu de dire où est leur Dieu. Assistez-nous, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Mes très chers frères, les textes de ce quatrième dimanche après la Pentecôte sont composés pour une partie d'appels à l'aide et pour une autre de vérités glorieuses. Nous y apprenons à crier à Dieu et à écouter sa parole afin que, ce faisant, nous devenions sages. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, comment nous devons apprendre à gémir. Deuxièmement, quelle est cette illumination dont nous avons besoin? Et troisièmement, comment la grâce opère en nous? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Mes très chers frères, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit ceci. « Mes frères, j'estime que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous. » Saint Paul met en perspective l'état de voie avec la finalité glorieuse des élus, que l'on appelle le salut réalisé. Or, si nous voulons un jour être glorifiés, il nous faut, dès à présent, gémir. Et comme nous disions dans l'introduction, il nous faut apprendre à gémir. Il nous faut gémir, et c'est pour cela que l'on voit dans la vie des saints qui, et ce ne sont pas, ils ne sont pas peu nombreux, des saints qui passaient leur vie, en faisant toutes sortes d'activités requises par leur état, à pleurer. Ils pleuraient, soit constamment, soit par intermittence, et c'est une chose si fréquente que nous voyons dans la vie des saints, et même dans les psaumes, que, d'une certaine manière, nous prenons ça comme une figure de style qui n'a pas une conséquence directe. Mais c'est faux. Ces larmes sont des choses qui sont des... c'est cette eau qui coulait de leurs yeux, pour parler, disons, d'une façon descriptive, et il ne faut pas nous imaginer que c'est une métaphore. Beaucoup de saints pleuraient. Alors, évidemment, la chose qui nous vient à l'esprit quand on souligne ça, c'est que cela donne un spectacle étrange. Parfois, cela donnait un spectacle étrange, effectivement. Certains saints avaient leurs yeux rougis en permanence. Vous connaissez, tout le monde qui est de certains milieux connaît l'histoire de saint Loup, qui est cet évêque de Troyes, qui était un saint qui pleurait bien souvent. Et lorsque Attila est passé devant sa ville et que saint Loup est allé intercéder pour sa ville pour éviter qu'il la détruise, Attila l'a même méprisé parce qu'il croyait qu'il était ivrogne à cause de ses yeux rouges et de ses yeux bordés, cernés de rouge. Voyez, ce qu'il n'était pas, il n'était pas un ivrogne, il était un saint. Il n'était pas enivré d'alcool ou de vin, il était rempli du Saint-Esprit, pour reprendre les paroles de saint Paul. Donc c'est une anecdote bien connue, et il se trouve que si nous nous disons « c'est un spectacle bien étrange que quelqu'un qui pleure tout le temps », on pourrait dire que nous n'avons rien compris. Premièrement, parce qu'il nous semble, parce que si cela nous semble étrange, c'est que a priori, nous ne respectons pas notre religion. Si la religion dit que les saints pleurent, et si, dans les anciens livres, on nous dit qu'il nous faut pleurer nos péchés, nous y reviendrons, parce qu'il n'y a pas que ça, et que cela nous paraît étrange dans le sens où cela paraît un petit peu stupide, alors c'est que nous ne respectons pas notre religion. Vous voyez, la modernité nous apprend à partir de la petite idée qu'on a des choses, et à, en quelque sorte, l'ajuster à des choses qui nous paraissent la corroborer ou pas. La religion nous apprend que tout ce que l'Église, tout ce que la littérature autorisée, les pères, les auteurs, etc., nous enseignent sur la religion, doit être pris comme tel et doit être honoré. Ne pensons pas que cette nécessité de gémir dont parle saint Paul, et tous les auteurs avec lui et après lui, est quelque chose qui est incongru. Alors, je vois déjà les péchus se révolter et dire on ne peut pas passer son temps à gémir, regardez où on en est, et si on avait moins gémi, si on avait un peu retroussé nos manches, si on avait mis la main à la pâte au lieu de gémir, justement, gémir comme des libéraux, hein, c'est comme dit Don Sarda et Salvani, le libéral soupire et gémit. Et le problème, c'est que c'est le Messie, dans les psaumes, qui dit ça. Cet auteur néfaste cite un psaume pour s'en moquer. Donc, le libéral fait ce qu'il veut, cela ne nous regarde pas. Nous, nous gémissons. Et ce n'est même pas quelque chose, à strictement parler, que nous avons à apprendre. Si nous sommes chrétiens, nous gémissons. C'est pour ça que saint Paul dit « Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettis qu'elle est à la vanité, etc. » Et il dit ensuite « Nous savons en effet que la création tout entière est encore jusqu'à maintenant dans le gémissement et les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption des fils de Dieu, qui sera la rédemption de nos corps en Jésus-Christ. » Le chrétien gémit donc, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela signifie qu'il gémit comme quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui n'est jamais content? Bien entendu, non. Mais faut-il le dire? Faut-il le préciser? Nous le précisons quand même. C'est pas qu'il gémit en se lamentant sur nous-mêmes. C'est justement là la clé. Pourquoi le chrétien pleure-t-il? Nous avons déjà fait allusion. Il pleure déjà à cause de ses péchés. Il pleure ses péchés. Vous savez que sans le baptême, on ne peut pas accéder à la vie tout court, puisque c'est la porte des sacrements. Et les auteurs nous disent que lorsque nous sommes baptisés, c'est-à-dire que nous recevons cette eau salvifique qui nous vivifie, qui nous fait mourir et ressusciter dans le Christ, il se trouve qu'il y a un deuxième baptême que nous devons, dans lequel nous devons persévérer, et c'est une façon quelque peu métaphorique de parler, bien entendu, c'est le baptême des larmes. C'est-à-dire que ce n'est pas un autre baptême ou un nouveau baptême, ou ça ne remplace pas le baptême, c'est une sorte de continuation du baptême qui nous lave, à la fois symboliquement, mais encore faut-il avoir le symbole, c'est-à-dire les larmes qui coulent, de nos péchés passés. Souvent nous disons, j'ai la contrition, je n'ai pas besoin de me lamenter, de pleurer. C'est faux. Il faut pleurer. Alors vous allez dire, mais si je me suis tout le temps en train de pleurer, les gens vont me... Ne vous inquiétez pas, mon très cher frère, continuez à ne pas pleurer, vous pouvez même sortir, ce sermon n'est pas pour vous. Maintenant, vous qui êtes restés, mes très chers frères, comment pleurer? Évidemment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, devant Dieu, il y a un temps pour sécher ses larmes et vaquer à diverses occupations. On ne peut pas être tout le temps en train de pleurer, même si c'est une grâce que de pleurer. Donc vous voyez souvent les gens qui disent « je ne peux pas être tout le temps en train de pleurer », ils n'ont jamais pleuré leur péché. Ceux qui reçoivent en abondance ou d'une façon parcimonieuse le don des larmes savent que ce sont des larmes qui viennent à des moments spéciaux où Dieu touche notre cœur d'un amour particulier pour lui. Ce sont des larmes qui manifestent, et ce n'est pas simplement des larmes extérieures, car elles correspondent aussi à des larmes intérieures, qui manifestent notre détestation des péchés que nous avons commis. Si nous ne pleurons pas nos péchés, nous ne les détestons pas vraiment. Vous allez dire, moi je ne suis pas très sentimental, je les déteste fortement dans mon cœur. Eh bien, tant mieux, mon très cher frère, je vois que vous êtes revenu. Il faut demander à Dieu le don des larmes. Car c'est quelque chose de rare et quelque chose d'abondant. C'est-à-dire que tout le monde le méprise, spécialement aujourd'hui, et pourtant c'est quelque chose qui touche le cœur, qui l'amollit mieux que le plus grand et le plus terrible des marteaux de Dieu. Quand Dieu utilise son marteau pour amollir un cœur, la plupart du temps, il le casse en mille morceaux parce qu'il est trop dur. Lorsque Dieu veut vraiment amollir un cœur et lui donner la forme d'une, la substance d'une cire dans laquelle il peut imprimer son cachet divin, c'est-à-dire la face de son fils, alors, véritablement, il donne le don des larmes et c'est quelque chose que seuls ceux qui le possèdent peuvent apprécier. Donc, voyez, mes très chers frères, la vie du chrétien, d'une part, consiste à pleurer ses péchés, et bien souvent, littéralement. Mais ce n'est pas le tout, car ce n'est pas exactement ce que dit saint Paul. Il l'implique aussi, mais il dit aussi, et non seulement elle, la nature, mais aussi nous qui possédons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire qui sommes des baptisés, qui sommes des vivifiés, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption des fils de Dieu, qui sera la rédemption de nos corps. Non seulement nous pleurons les péchés que nous avons commis, et là, je vous demande d'être très attentifs, mes très chers frères, mais nous devons aussi gémir sur notre condition de terrestre, d'être en état de voie. Alors, là, il y a quelque chose de très subtil, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas gémir sur la pénibilité pour notre chair, pour notre concupiscence de cet état de voie. Nous sommes chrétiens, les choses ne vont pas forcément selon ce que nous voulons, et nous gémissons. C'est à la portée d'un païen, n'est-ce pas? Donc cela n'a rien à voir avec le chrétien. Le chrétien gémit du fait qu'il est encore sur terre. Vous allez dire, bah oui, j'aimerais bien être au ciel pour que tous mes soucis se terminent. Le croyez-vous vraiment, mes très chers frères? Croyez-vous vraiment que vous aimeriez être au ciel pour que tous vos soucis se terminent? Parce que quand on est au ciel avec les élus, ce n'est pas simplement nos soucis qui se terminent, c'est aussi notre amour-propre qui se termine. Or, nous désirons souvent le ciel pour le contentement de notre amour-propre. Donc, si nous avions un tout petit peu de sagesse, nous ne désirerions pas le ciel, puisqu'il est synonyme de fin, destruction, engloutissement de notre amour-propre dans l'amour de Dieu. Donc, vous voyez, quand nous gémissons pour nous plaindre, nous ne désirons pas le ciel. Donc, comme c'est à la portée d'un païen, encore une fois, cela ne regarde pas le chrétien. Le chrétien méprise ce genre d'attitude. Qu'est-ce que ça signifie, gémir, avec toute la création? Eh bien, nous gémissons, mes très chers frères, sur la dureté de notre cœur. Nous gémissons sur notre méchanceté. Nous gémissons sur notre amour-propre. Nous ne gémissons pas comme des gens qui aimeraient être plus sains pour pouvoir mieux s'admirer, encore une fois, nous en parlons souvent. Ce n'est pas cela. Nous gémissons en nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre fort interne, dans le rapport que nous avons à Dieu par la prière. Nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu, qui sera la rédemption de nos corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, dit saint Paul dans la même épître. Le corps, qui n'est pas toute la chair, puisque la chair s'étend aussi à un aspect de l'esprit, de l'âme, mais le corps est ce qui, de toute évidence, nous tire vers le bas. Il est ce qui, de toute évidence, est à l'origine de la plupart de nos tentations. Certes, il y a des tentations qui sont purement subtiles, disons, je ne dis pas spirituelles, mais enfin, subtiles, qui s'adressent directement à l'âme. C'est vrai, effectivement. Mais la plupart du temps, c'est notre corps qui nous tire vers le bas. Or, nous gémissons en nous-mêmes, non pas en nous disant « Ah, j'aimerais être plus sain pour pouvoir mieux paraître », etc. Non, nous gémissons dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas un gémissement de plainte, c'est un gémissement d'une certaine sainte impatience. C'est pour ça que saint Paul dit dans le début de l'Épître « Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettie qu'elle est à la vanité ». Nous gémissons d'impatience, d'une sainte impatience. Nous gémissons parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Donc, quelle est cette sainte impatience? C'est un gémissement qui est, contrairement à ce que disait le péchu de tout à l'heure, qui est véritablement une tension entière de l'âme, de l'esprit et donc de tout l'être humain vers Dieu, qui se maintient en Dieu par l'exercice fidèle des divers devoirs liés à notre état. C'est-à-dire que lorsque nous nous plaignons, etc., nous ne gémissons pas, nous murmurons. Lorsque nous gémissons en nous-mêmes, dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu, alors ça signifie que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour obéir à Dieu et pour dompter cette chair, corporelle ou plus subtile, qui nous détourne de Dieu. Nous gémissons un petit peu comme un haltérophile gémit en soulevant un poids, ou comme une dame qui va voir un enfant, comme dit saint Paul, soupire. Vous voyez, ce n'est pas des plaintes, c'est un effort qui se manifeste par ce qu'on appelle un gémissement. Vous voyez, c'est un effort. Donc, le péchu de tout à l'heure, qui disait « Ah, oh, moi je ne peux pas passer mon temps à gémir, il faut que je me retrousse les manches et que je casse les figures aux gens, sinon je n'ai pas l'impression d'être un bon chrétien », celui-ci est un mou. Une fois que vous avez tapé quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Si c'est littéralement, vous allez au poste de police, c'est malin. Si c'est verbalement, bien, il faut faire attention, mes très chers frères, parce que maintenant les règles de l'Internet se durcissent, alors il faut faire très attention, on peut terminer au poste de police pour des propos sur l'Internet. Donc, de toute façon, ce n'est pas la peine de les proférer. Vous voyez, le péchu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut arrêter de se plaindre. Le péchu, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est quelqu'un qui a la mentalité d'un sioniste et qui dit, ça fait 2000 ans qu'on nous crache à la figure, qu'on nous marche dessus, maintenant on se retrouve les manches, on botte des derrières et on va se préparer un pays parce qu'on a suffisamment souffert. C'est une attitude qui se comprend parfaitement. Elle se comprend parfaitement. C'est l'attitude de l'homme charnel. Donc, nous ne jetons pas la pierre, nous faisons simplement la comparaison. Vous voyez, c'est souvent les gens qui disent le plus de mal des autres qui leur ressemblent le plus. En réalité, celui qui gémit, c'est celui qui fait un effort. La maman qui va avoir un enfant et qui gémit, vous voyez, les gémissements, les douleurs de l'enfantement, elle n'est pas là en train de dire « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, c'est tellement embêtant, j'aimerais être ailleurs ». Non, elle gémit et puis au bout d'un moment, elle a un enfant. Et elle est heureuse d'avoir mis au monde un homme, comme dit notre Seigneur. Celui qui fait un effort très grand pour accomplir quelque chose, gémit, et puis ensuite il a réussi et il a fait ce qu'il devait faire. Vous voyez ? En réalité, le péchu est tout le temps en train de se plaindre de ne pas avoir les coudées assez franches pour faire ce qu'il veut, et en réalité, il ne fait rien. Il ne fait rien, en tout cas, il ne fait rien contre lui-même, c'est-à-dire qu'il vit la plupart du temps dans sa concupiscence, il n'en fait qu'à sa tête, en toute indépendance, en toute liberté, que sais-je. Ce n'est pas un homme spirituel. L'homme spirituel semble gémir et pleurer, c'est ce qui est littéralement le cas, mais c'est parce qu'il est en train de réaliser un effort incomparable, surhumain. C'est l'effort de la mise au monde de l'homme nouveau en nous, du Christ en nous. Alors vous allez dire, comment est-ce que la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu ? Chaque fois que, chaque année que ce passage arrive, les gens, les fidèles, semblent ne pas écouter le sermon, et après, ils vous posent tout le temps la même question, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, écoutez bien, je vais vous donner une amorce de réponse. Les auteurs nous disent ceci, les pères nous disent ceci. La création a été tout entière soumise à la vanité à cause d'Adam et de la chute d'Adam. L'homme étant le summum, le sommet, le chef-d'œuvre de la création, en chutant, il a tout entraîné avec lui-même. Comment est-ce que ça se manifeste particulièrement ? Alors, n'entrons pas dans les détails, nous disons simplement que les pères nous disent ceci, c'est que chaque fois que nous faisons un mauvais usage de la création, nous la soumettons à la vanité. Imaginez un marteau qui est fait pour enfoncer des clous et que quelqu'un utilise pour se gratter le dos. Mettez-vous à la place du marteau. Il va dire, vraiment, on m'emploie d'une façon ridicule, on m'emploie contrairement à ma nature. Vous voyez ? Eh bien, c'est à peu près la même chose pour la création. Chaque fois que la création est utilisée, chaque fois qu'elle est aimée, chaque fois qu'elle est désirée pour elle-même et non pas pour Dieu, elle gémit et elle est dans cette impatience de la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la création tout entière, qui n'a pas l'âme rationnelle, mais disons qui, sous un certain rapport, est à une certaine conscience de son être par rapport à Dieu, gémit, souffre d'être mal employé par celui qui est son maître, c'est-à-dire l'homme. Car l'homme est le maître de la création, c'est Dieu qui l'a institué ainsi. Encore faut-il qu'il soit un bon maître. Un auteur nous dit ceci, « Rapporter tout l'usage des créatures à Dieu, c'est suivre leur instinct et comme leur inclination. Se les rapporter à soi-même, c'est leur faire violence. » Il s'agit donc du bon usage. Et quel est le bon usage pour le chrétien ? Alors le chrétien va dire, oui, il faut user de tout avec modération, comme nous disions la dernière fois. Il faut user de tout avec modération. Ça veut dire quoi avec modération ? La modération, la tempérance chrétienne, c'est ceci. User comme n'usant pas. C'est saint Paul qui le dit. Qu'est-ce que ça signifie, user comme n'usant pas ? Eh bien, ça veut dire user des objets de la création en faisant le tri, c'est-à-dire en utilisant que ce qui a rapport à notre devoir, et d'autre part, en rapportant tout cet usage à notre fin, qui est Dieu. Et nous rajoutons, sans faire usage des créatures pour notre concupiscence. C'est cela que signifie user comme n'usant pas. Alors vous allez dire, je suis un peu dans la confusion, est-ce qu'on peut utiliser les choses ou pas ? User, donc il nous faut, puisque nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes ici-bas, mes très chers frères, et nous sommes dans l'état de voie, et dans cet état de voie, la caractéristique de l'état de voie, c'est que nous devons mériter amasser un trésor au ciel, etc. Nous devons acquérir les mérites que Dieu a préparés pour nous en accomplissant les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Nous ne pouvons pas les accomplir sans user de telle ou telle chose de la nature, de la création. Voyez ? Donc, ça signifie que nous devons user de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre devoir d'État, tout en étant totalement détachés. Alors vous allez dire, donnez-nous un exemple. Il n'y a pas d'exemple qu'on puisse vraiment prendre de la nature, parce que c'est un comportement proprement surnaturel. Je vais vous donner un exemple, néanmoins, par comparaison. Ce n'est pas un vrai exemple, mais c'est une comparaison. Dans la théologie islamique, il s'agit d'user de tout ce que, de tout ce que Dieu nous a prévu pour l'homme sur terre, et d'en user avec une certaine avec reconnaissance sous le regard de Dieu. Je ne sais pas si le terme de reconnaissance est vraiment utilisé dans cette religion, mais enfin, disons qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est que le musulman utilise tous les plaisirs que Dieu a mis sur la terre, sauf qu'il les utilise sous le regard de Dieu, c'est-à-dire conformément à la loi de Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons tout à fait reconnaître, c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait des termes que nous pouvons avoir pour nous-mêmes, hein, ce n'est pas une critique. Mais la seule chose, c'est que le musulman utilise tout dans la création, tous les plaisirs de la création. La seule chose son Dieu lui demande, c'est de l'utiliser conformément aux limites posées par la loi de Dieu. C'est assez génial d'avoir fait une religion avec ça, parce que ça fait des gens qui sont quand même assez moraux. Et même, je dirais même, s'ils font un effort, ils peuvent être assez très moraux même. Maintenant, vous voyez, pour le christianisme, parce que quand même ce n'est pas la même chose, pour le christianisme, ce que nous venons de dire n'est pas faux, mais c'est vraiment le minimum du minimum qu'on peut dire. Et c'est là où, vous verrez, le musulman trouve que le christianisme exagère, et c'est là où le christianisme a une certaine idée aussi de la théologie islamique. C'est-à-dire que pour le chrétien, dire « Dieu a mis plein de plaisirs dans le monde et il faut les utiliser conformément à la loi de Dieu » a quelque chose d'antagonique. C'est-à-dire, c'est une sorte de contradiction. C'est-à-dire que le chrétien ne va pas définir l'usage du monde en fonction d'un usage de plaisir limité par la loi de Dieu, par le licite, les conditions du licite. Le chrétien va considérer que dès que l'on commence à éprouver un certain plaisir dans l'usage des objets de la création qui ont rapport avec notre état, nous ne parlons pas des païens, nous parlons des chrétiens, il y a quelque chose qui commence à dégénérer et qui commence à déplaire à Dieu, et c'est ce qui s'appelle le degré le plus bas de la concupiscence. Alors vous allez dire, je n'ai jamais entendu cela, saint Thomas dit que, c'est sûr que c'est saint Thomas, c'est pas Maritain, ou c'est pas quelques répétiteurs aveugles de l'humanisme chrétien. Écoutez bien mes très chers frères, dès que l'on commence à éprouver un plaisir qui envahit l'action, l'usage que nous sommes en train de faire, la concupiscence se mêle à l'usage et il y a déjà faute, il y a déjà péché véniel. Alors vous allez dire, ça veut dire qu'il ne faut jamais prendre plaisir en quoi que ce soit. Par exemple, on boit un verre de vin, c'est un excellent vin. Que faudrait-il faire ? Adultérer le vin pour ne pas éprouver le plaisir ? Il se trouve que boire un verre de vin produit un plaisir. Mais ce plaisir doit être rapporté à Dieu et ne doit pas être recherché en lui-même. Le bon usage de la création produit une certaine satisfaction. Quand on travaille dans la menuiserie et que l'on fait un meuble, que l'on fait quelque chose, il y a une certaine satisfaction qui s'ensuit. Pourquoi ? Parce que le travail ennoblit l'homme, parce que Dieu a fait que l'homme travaille, avant et après la chute, pas de la même manière, mais disons de façon équivalente, de telle sorte qu'il tire une certaine satisfaction. Mais quelle satisfaction ? C'est là où on trouve justement la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Lorsque le chrétien éprouve cette satisfaction et que immédiatement il la reporte à Dieu dans un esprit de reconnaissance, alors il fait bon usage. Mais lorsque le chrétien, qui ne fait que son devoir, qui n'utilise que les choses de son devoir, qui ne fait usage des créatures que dans la mesure où elles s'inscrivent dans son devoir, commence à se détourner de Dieu en jouissant même d'un tout petit plaisir très légitime, disons très très borné, dans l'usage des de la créature, alors c'est la concupiscence. Ce n'est pas moi qui, ce n'est quand même pas moi qui ai inventé ça, je ne suis que le très humble répétiteur de tous les pères avant moi. Bien entendu. Vous voyez, alors vous allez dire, mais est-ce que je n'ai pas lu quelque part que justement la caractéristique de la société catholique, c'est qu'il y a du bon vin, des chants, des danses. Alors, le bon vin, oui, pour dire la messe et puis pour célébrer Dieu, mais regardez toute l'abstinence que nous demande l'Église aussi. Les danses et les chants, je vous propose d'interroger le Saint Curé d'Ars pour voir ce qu'il pense de la civilisation catholique qui se caractérise par des chants et des danses. Alors vous allez dire, mais vous voulez faire de nous des espèces de puritains qui ne peuvent toucher à rien sans avoir la crainte d'éprouver un plaisir illicite. J'aimerais que vous ayez raison, mes très chers frères, mais si vous avez raison, si l'humanisme chrétien tel qu'on le découvre depuis 100 ans et qui fait qu'on découvre que le monde est plein de plaisirs et que la seule limite, c'est finalement le bon usage, je pense que la seule limite, c'est là où commence la liberté de l'autre, hein, comme dit un grand-père de l'Église appelé Kant, je pense que si cela est vrai, alors ça veut dire qu'il y a 1900 ans de christianisme, de théologie morale chrétienne, qui sont non seulement périmés, mais annulés, mais récusés. Combien de fois ai-je entendu, soit dans les séminaires ou ailleurs, des gens qui disaient « Oui, vous savez, quand on lit les pères, leur ascèse extrême, il y a des problèmes psychanalytiques dessous, etc. » Voyez, mes très chers frères, je ne veux même pas répondre à ce blasphème. C'est le chrétien moderne qui est un sous-musulman. C'est le chrétien moderne qui, découvrant les joies des récréations permises, les joies des plaisirs de la table, regardez le gros saint Thomas qui tapait sur son ventre à la table de Saint-Louis, hein, c'est bien connu, bien entendu, c'est faux. Donc, vous voyez, on a l'impression que tout d'un coup, le christianisme est une école de plaisir. Mais, mes très chers frères, vous vous êtes trompés de religion. Lisez Al-Ghazali et puis ses livres, et puis devenez musulmans. Le christianisme, justement, et c'est là où les musulmans disent quelque chose qui est intéressant, parce qu'ils se trompent, mais ils disent quelque chose de vrai. Ils disent à propos des religieux, à propos de l'abstinence, Dieu n'a pas demandé cela. Justement, si. Dieu demande cela. Ils disent, Dieu n'a pas demandé cela, pourquoi? Parce qu'on dirait que ça contredit et ça contrevient à l'usage licite et plaisant de la création. Mais justement, reprenons l'image du marteau. Que le marteau ait une certaine couleur, qu'il ait une certaine ergonomie, qu'il ait une certaine forme, il est fait pour enfoncer des clous. Et si celui qui a façonné le marteau a peut-être mis un poinçon dessus, qui n'est pas forcément moche, a mis une couleur sur son manche pour le distinguer d'autres et une couleur qui est agréable à voir, vous pensez bien que son but, ce n'est pas que ce marteau soit posé sur une table ou sur une étagère et admiré pour sa couleur, pour sa forme. Il est fait pour être utilisé. La création est faite pour être utilisée. Les concepteurs d'escaliers, il y a des règles très précises pour faire des marches, sinon c'est le fait de gravir des marches est très très pénible pour l'être humain. Il y a des choses très précises, ça correspond à des lois mathématiques, à des lois géométriques, des lois physiques aussi. Est-ce que celui qui conçoit l'escalier s'attend à ce que celui qui va monter l'escalier s'arrête, regarde, sorte son petit instrument pour mesurer et dise « mais qu'est-ce que c'est bien fait, etc. » Bon, oui, c'est bien fait, voilà un escalier bien fait, bien conçu, maintenant utilisons-le pour passer à l'étage supérieur. Voilà la volonté de Dieu. D'une certaine manière, l'humanisme chrétien, l'islam, etc., ne se trompe pas en disant que la création est pleine de choses qui sont belles et bonnes. Mais le problème, c'est que Dieu ne les a pas données pour que nous en jouissions, mais pour que nous les en usions comme n'usant pas. Alors vous allez dire, c'est quelque chose qui est pénible et pesant à entendre. C'est pour cela qu'il est écrit, mes très chers frères, il est plutôt demandé dans l'offertoire. Illumina oculos meos ne unquam obdormiam in morte. Illuminez mes yeux afin que jamais je ne m'endorme du sommeil de la mort. On se plaint du désordre et on se complaît dans le désordre. On voudrait la restauration de l'ordre, mais c'est pour y triompher. Le sommeil de la mort, mes très chers frères, c'est l'abandon à la volonté propre. L'illumination des yeux correspond à la sainte impatience de la manifestation des fils de Dieu. C'est le triomphe sur le diable intérieur et extérieur qui, autrement, peut prévaloir sur nous. Illuminez mes yeux de peur que je ne m'endorme dans la mort et de peur que mon ennemi ne dise « je l'ai vaincu ». Prévalui adversus eum. J'ai prévalu sur vous. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elles. Illumina oculos meos. Oui, le musulman est un homme charnel. L'homme, le catholique humaniste, est un homme, si je veux dire, un sous-homme charnel, si j'ose dire. Pas un sous-homme charnel, mais il est en dessous de l'humanité. En se vautrant, d'ailleurs fort ridiculement, parce qu'il faut voir les catholiques humanistes qui s'imaginent être des sybarites, en réalité ils sont totalement ridicules. Totalement ridicules. C'est d'un grotesque. Il faut mieux d'être catholique tout court, vous savez. C'est moins grotesque. Regardez l'image de tout cela dans le miroir des yeux du monde. Je vous assure que c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est totalement ridicule. On devrait avoir honte. Notre religion est une religion qui est purement surnaturelle. Elle doit s'accomplir, les mérites doivent s'acquérir par l'usage de telle ou telle chose de la création, parce que nos états nous requièrent, certains plus, certains moins, mais disons, ils le requièrent. La seule chose, nous devons user comme n'usant pas. Dès que nous trouvons du plaisir dans quelque chose, nous devons immédiatement le reporter à Dieu, de peur que la concupiscence ne s'en mêle. Et si cela nous semble inaudible, alors nous devons dire « ou illuminez mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort ». La mort, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté propre, c'est l'amour propre, c'est la petite idée qu'on a de la religion. C'est aussi la damnation éternelle, bien entendu, mais c'est tous les prodromes, ce sont tous les prodromes. C'est pour ça que dans l'intro 8, il est dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Dominus defensor vitae meo, vitae mea, a quo trepidabo ?» Le Seigneur est le défenseur de ma vie. De qui tremblerai-je? De qui aurais-je peur? Dieu est le défenseur de notre vie. Si nous rapportons tout à lui, si aucune de nos actions n'est faite dans l'oubli de la charité, si tout plaisir que nous prenons, si toute satisfaction, tout plaisir que nous prenons et que nous trouvons dans l'usage des créations, nous le rapportons à Dieu en le convertissant sous forme de reconnaissance, alors, mes très chers frères, nous pouvons estimer que nous commençons à être chrétiens. Il n'y a que deux motivations dans l'homme, ou bien l'amour de Dieu, ou bien l'amour de soi, ou bien la charité, ou bien la concupiscence. Si je n'agis pas entièrement par la charité, j'agis d'une manière ou d'une autre par la concupiscence. Alors évidemment, on va dire, oui, mais qui peut avoir une telle charité? Ça se cultive, mes très chers frères, ça se forge. Nous gémissons dans l'attente de l'adoption des fils de Dieu. Nous gémissons contre nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'intro 8, il est écrit ces paroles terribles. « Qui tribulant me inimici mei ipsi infirmati sunt et cesiderunt. » Les ennemis qui me persécutent ont été eux-mêmes affaiblis et sont tombés. Ce sont des paroles terribles, parce que ce sont des imprécations contre soi-même, contre ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire contre le moi, contre le vieil homme, contre la chair. Que ceux qui me persécutent soient affaiblis et qu'ils tombent. Nous demandons l'infirmation de notre moi, afin que le défenseur de notre vie triomphe. D'où la disproportion entre les souffrances de la vie présente avec la gloire future, mes très chers frères. C'est l'expectation, l'attente, cette attente avec une sainte impatience qui empêche que nous ne nous découragions. Or, bien souvent, nous aimons le découragement parce que nous ne voulons pas du salut. Le découragement, qu'est-ce que c'est? C'est la jouissance de l'amour-propre. C'est-à-dire, qui aime être découragé? Mes très chers frères, franchement. Le découragement, ce n'est pas le gémissement en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu. Ce n'est pas cette, ces larmes que nous versons d'être si mauvais, d'être si dur, d'être si méchant, ou de l'avoir été, ou de l'être encore, voyez, ou de l'être en puissance, sans Dieu. Le découragement, c'est quand on dit « Oh, ben finalement, le bon Dieu n'en demande pas tant. » Voyez, c'est une forme subtile de découragement. On peut se dire « Je n'y arrive pas, donc Dieu n'en demande pas tant. » C'est une lamentable erreur. Et les directeurs spirituels qui disent aux gens « Le bon Dieu n'en demande pas tant » sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et notre Seigneur dit qu'ils tomberont tous les deux dans une fosse. Le bon Dieu n'en demande pas tant. Comment ? Il demande de nous quelque chose qui est à la mesure des enfants de Dieu que nous sommes devenus par le baptême. Est-ce que le bon Dieu demande de nous des choses qui sont à la mesure d'un païen, un tant que soit peu sage, d'un cancien un petit peu sérieux, d'un mécréant qui est vertueux ? À quoi bon être baptisé, mes très chers frères ? À quoi bon faire tous ces efforts si c'est finalement pour faire des choses qui même d'une certaine manière, sont moins bien faites que les mécréants. Dieu nous demande des choses qui dépassent nos forces. Et comme dit notre Père, il donne ce qu'il ordonne. Si sa loi nous semble impraticable, c'est que nous ne voulons pas la pratiquer. Bien sûr, il ne s'agit pas de volontarisme ici. C'est que nous devons tendre la main pour recevoir ce que Dieu nous donne en même temps qu'il nous ordonne sa loi. Notre Seigneur dit à saint Pierre, après avoir prêché dans sa barque, « Duc in altum », « Va, pousse au large, va plus haut dans la mer. » « Duc in altum », l'ordre du Christ est contraire à un certain bon sens, il fait jour et on ne pêche pas pendant la journée, et à une certaine expérience. Saint Pierre lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Notre Seigneur ne lui dit pas, Monsieur Saint-Pierre, vous avez été bien gentil, écoutez, rendez-vous demain soir prochain, vous allez voir que je vais vous amener des petits lampions, etc., va balancer des bâtons de dynamite dans la mer, et vous allez voir, il y a plein de poissons qui vont venir. Notre Seigneur, déjà, réquisitionne sa barque d'autorité, et ensuite, en plein jour, alors que les filets viennent d'être lavés et qu'ils sont tous préparés, il lui dit d'aller en pleine mer et de jeter ses filets. L'ordre du Christ, qui s'adresse à nous, les baptisés, est toujours surnaturel. Écoutez, mes très chers frères, si le Christ nous disait « faites ceci, faites cela » et qu'un païen, en l'écoutant, pouvait le mettre en pratique, encore une fois, à quoi bon être chrétien ? Dieu ne nous demande que des choses qui sont totalement impossibles à la nature humaine, toute seule, et qui plus est dans son état de déchéance, mais toute seule aussi. Il nous demande des choses qui, jusqu'à un certain point, sont impossibles, qui jusqu'à un certain point sont inutiles, qui jusqu'à un certain point viennent contrevenir à un certain ordre raisonnable que nous nous imposons. Après la pêche, on lave les filets, c'est écrit dans l'Évangile, et on les range en attendant la prochaine pêche. Eh bien, notre Seigneur nous dit, vous aviez cru ranger vos filets parce que vous n'aviez rien trouvé, maintenant vous les dépliez, vous allez pêcher. Saint Pierre dit cette parole fort respectueuse, mais fort rationnelle, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et, inspiré par le Saint-Esprit, que rajoute-t-il ?« Mais sur votre parole, je jetterai le filet. » In verbo autem tuo relaxaborete. Voyez, on pourrait dire que la différence entre un païen de bonne volonté, entre un mécréant de bonne volonté et un chrétien, tient dans le petit mot « autem ». Cependant, pourtant, toutefois, in verbo autem tuo relaxaborete. Toutefois. Le toutefois, c'est la flagellation du moi. Le toutefois, c'est le renoncement à la volonté propre. Le toutefois, le autem, c'est le renoncement à ce qui me semble raisonnable. Il me semble que le bon Dieu n'en demande pas tant. Toutefois, si vous me le dites, Seigneur. Et comment notre Seigneur nous parle-t-il ? Il nous parle par l'Écriture, il nous parle par les pères, il nous parle par le magistère, il nous parle par l'Église. Il nous parle par tous ces auteurs qui nous enseignent justement à vivre une vie qui n'est pas une vie qu'un stoïcien aurait pu mener, mais une vie qui est une vie proprement surnaturelle. Ce n'est pas la vie d'une bête néotomiste qui se vautre dans un certain plaisir parce que le chrétien est le fils du Dieu qui a créé des belles choses, des bonnes choses. Encore une fois, C'est stupide, c'est grotesque, c'est ridicule, et surtout c'est nouveau. Le chrétien est celui qui use de tout ce dont il a besoin sans user, comme n'usant pas. C'est le chrétien qui est un vrai chrétien et qui demande à Dieu l'illumination de ses yeux. Duc in altum. L'ordre du Christ est divin. Ce que le Christ veut, il l'obtient toujours. Il veut une barque, il réquisitionne la barque. Il veut que Saint-Pierre, il veut donner des poissons à Saint-Pierre et à ses associés, il le contraint, le contraint d'aller en pleine mer, en plein jour, après une nuit de pêche totalement infructueuse. Dans le graduel, il est dit ceci, « Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, que les nations n'aient pas lieu de dire où est leur Dieu. Assistez-nous, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Adiuvanos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui, domine liberanos. » Quand le Christ nous invite à son banquet, il a en vue sa propre gloire. Aussi, mes très chers frères, nous n'avons pas d'autre choix que de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Lorsque le Christ veut quelque chose, il l'obtient toujours infailliblement, car la volonté du Christ n'est pas susceptible d'être mise en échec. Parce que la volonté du Christ, c'est la volonté de son Père, et que ce que le Père a donné à son Fils, nul ne les ravira de sa main. Telle est la volonté du Christ. Illumina oculos meos, ouvrez mes yeux, illuminez mes yeux. Faites-moi connaître ma folie, mon aveuglement, ma dureté de cœur, mon orgueil insensé, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, c'est-à-dire que je ne retombe pas en moi-même et que je devienne, que sais-je, un humaniste, quelqu'un d'une autre religion, qui se vautre dans le plaisir, sous le regard d'un Dieu qui, finalement, a prévu beaucoup de plaisir pour l'homme, et qui c'est à peu près la seule chose qu'il puisse lui donner. Voyez, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait bien plus que de nous associer à lui-même. C'est bien plus que cela. C'est pour ça que c'est impropre quand certains le disent. Il nous unit à lui-même. Et pour être uni à lui-même, il faut être détaché, mes très chers frères. Et pour être détaché, cela ne peut commencer à se faire, cela ne peut se réaliser que quand on use comme n'usant pas. Sinon, qu'est-ce que c'est? C'est tomber et s'endormir dans le sommeil de la mort, afin que l'ennemi ne dise pas « j'ai prévalu sur lui ». Ce que voyant, voyez, illuminez les yeux, et il est écrit dans l'Évangile, ce que voyant, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus, lui disant « Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pécheur, car l'épouvante l'avait saisi ». L'œuvre de la grâce dans notre vie doit nous précipiter à genoux, mes très chers frères, et nous faire confesser que notre indignité, que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, et sans cela, mes très chers frères, alors nous sommes ingrats. Nous sommes des ingrats, nous sommes des usurpateurs, nous sommes des sensuels, nous sommes des humanistes, nous sommes tout ce que Dieu déteste, et surtout, nous nous sommes complètement trompés de religion. Alors mes très chers frères, soyons détachés de tout afin d'être attachés à ce grand Dieu qui veut se donner lui-même à nous, moyennant que nous n'ayons rien que lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.